en opéra. Émission spéciale.
Ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial en compagnie de Dominique Meyer, dont je ne vais évidemment pas dérouler tout le curriculum vitae, mais on peut dire entre autres qu'il a été directeur de l'Opéra de Lausanne, du Théâtre des Champs-Élysées pendant de nombreuses et riches années, et enfin de l'Opéra d'État de Vienne. Dominique Meyer, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va essayer de retracer à la fois votre carrière, mais aussi les préoccupations qui intéressent les directeurs de maisons d'opéra aujourd'hui. Ce que je voulais savoir, c'est que vous sortez d'un milieu social qui est généralement atypique dans les maisons d'opéra. Vous êtes fils de diplomate. Est-ce que vous pourriez nous décrire peut-être à la fois votre jeunesse et la manière dont votre éducation musicale s'est faite dans ce qu'on imagine les salons moirés et élégants de la diplomatie française?
Vous vous trompez tout complètement. Dans ma famille, mon père était militaire pendant longtemps avant d'être diplomate, et en fait, je n'ai pas grandi dans les salons moirés de la diplomatie, mais dans les logements de fonction des militaires, des casernes. Voilà, donc c'est pour situer le décor. Voilà, mais j'ai eu de la chance, j'ai eu une jeunesse heureuse, une enfance heureuse, des parents formidables, mais par contre pas de musique. Il n'y a pas de musique à la maison. On lisait beaucoup, mais il n'y avait pas de musique. Et la musique, je l'ai découverte tout seul quand je suis arrivé à Paris à l'âge de 17 ans.
Comment ça s'est fait?
J'étais avec mon frère, qui est un peu plus jeune que moi, et nous sommes dit à nous Paris. On est allé voir tout ce que Paris peut offrir, les expositions de peinture, le cinéma, naturellement, c'était les années 70, c'était la grande période du cinéma. Et puis un jour, on est allé au concert et ça nous a plu. Voilà. On a été voir aussi les concerts rock, les concerts pop. Et un jour, je suis allé à l'opéra, il y avait Parsifal. La chance, c'est que ça coûtait 5 francs à l'époque. Donc même un étudiant fauché pouvait se payer un billet, il fallait juste faire la queue longtemps. Et voilà, j'étais attrapé par la manche, par ce Parsifal qui ne m'a plus jamais relâché. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était la dernière représentation d'une série. Et je me souviens très bien que j'étais frustré parce qu'en sortant, j'avais 4 ou 5 notes dans la tête et je cherchais la suivante. Aujourd'hui, naturellement, ça ne provoquerait aucun effet parce qu'en 30 secondes, avec un portable moyen, on arriverait à trouver la note suivante. À l'époque, ce n'était pas possible. C'était simplement impossible. Il fallait acheter Parsifal en disque, en 33 tours. Ça coûtait très cher parce qu'il en fallait 5. Ce n'était pas du tout à la portée de la bourse d'un étudiant. Et donc, cette espèce de recherche de la note supplémentaire suivante, ça m'a un petit peu obsédé. Donc voilà, je continue à aller à l'opéra.
Est-ce que c'est celle qu'on entend, la note,
au loin? Non, c'est pas celle-là. Non, c'est une autre.
Vous croisez des personnalités majeures du monde de la culture française, la fin des années 80, des années 90, Jack Lang, ministre de la culture culte aujourd'hui, Catherine Tasca, dont vous êtes directeur de cabinet. Quand on entend parler les artisans du monde de la culture, on a le sentiment qu'en France, la culture se décide quasiment plus dans les cabinets ministériels, dans les couloirs de l'Élysée, dans les couloirs du Sénat et du Parlement, que sur le terrain. Est-ce que c'est une image d'Épinal?
Oui, je crois que c'est une image d'Épinal. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Lang. Bon, c'était un bonhomme formidable. Il savait renverser les montagnes. Il avait des vraies convictions. Il travaillait beaucoup. Non, moi, je pense que il y a un terreau très riche culturel en France. Les Français sont des éternels grognards et pas toujours mal d'eux-mêmes. Mais ça, c'est fréquent un peu partout dans le monde. Ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Moi, je pense qu'au contraire, la vie culturelle est riche en France. Et moi, j'en suis l'exemple. Je viens de rien, de nulle part. Juste mu par la passion, par le désir de découvrir des choses, par l'amour qu'on leur porte. Et je pense que c'est à portée de n'importe qui. Il suffit d'aller se promener, d'ouvrir les portes. On peut aller très facilement au musée en France, on peut aller très facilement dans les bibliothèques. Ce qu'a fait Jacques Lang, par exemple, c'était un grand plan pour les bibliothèques publiques à l'époque. Le prix unique du livre qu'on a fait pour que les petits libraires ne soient pas écrasés par la grande distribution, tous les plans de financement du cinéma qui fait qu'aujourd'hui encore, on produit 200 ou 300 films par an. Il y a une impulsion dans l'État. Voilà, et je trouve que c'est bon, simplement. Je trouve qu'on dit parfois qu'il y a trop d'État. Oui, peut-être qu'il y a trop d'État dans des décisions Et en effet, ça se traduit par le fait des décisions de nomination, par exemple. Mais ça se traduit aussi par le fait qu'il y a une espèce de tradition clientéliste, peut-être pas toujours extrêmement saine, mais à la fin des fins, je pense quand même que la vieille tradition centralisatrice a produit du bon, parce qu'elle a justement, parce qu'il y avait des décisions fortes de l'État, elle a abouti au fait que dans toutes les régions, dans toutes les villes de France, il y a des activités culturelles fortes. Et qu'il y a un relais, il y a une espèce de redistribution qui se fait entre des régions qui sont au départ favorisées, d'autres qui le sont moins.
Alors concrètement, faisons un peu de pédagogie. Stéphane Lissner, l'actuel directeur de l'Opéra de Paris, va être prolongé ou ne le sera pas. Si jamais Stéphane Lissner n'est pas prolongé, qui concrètement va prendre la décision de nommer son successeur? Et est-ce que vous comptez être parmi les prochains candidats?
Moi, je ne compte rien du tout. J'ai toujours laissé faire le destin. Et il a été très sympathique avec moi, ce destin. Non, formellement, c'est le ministre de la Culture, mais on sait très bien que le ministre de la Culture ne prend jamais une décision comme celle-là sans que les responsables de l'État soient impliqués. Le président de la République, sans doute, son entourage.
L'enjeu de cet éventuel nouveau mandat du directeur de l'Opéra de Paris, c'est de nommer un nouveau directeur musical. Vers quel profil pourrait-on s'orienter? Mettons que vous soyez dans la boucle. Est-ce qu'on irait plutôt chercher un de ces chefs français qui réussissent très bien à l'étranger et qui n'ont pas encore réellement trouvé d'attache en France? Ou est-ce qu'on nommerait plutôt une énorme pointure internationale? Vous irez dans quelle direction?
Moi, je ne sais pas, je ne pose ce genre de questions que quand elles me sont posées.
C'est un peu de la langue de bois, ça, quand même.
Non, c'est la vérité, mais je pense qu'on est en bonne position actuellement parce que, en effet, il y a des chefs français qui ont un parcours remarquable. Sur Bruxelles, il y en a un qui n'est pas loin.
Il y en a même deux, il y a Stéphane Deneuve et Alain Altinoglou.
Il y en a même deux, mais Alain Altinoglou, il a un grand répertoire. C'est quand même ça l'enjeu. On peut pas... Je pense qu'on... J'aime beaucoup Stéphane, je le connais depuis l'origine, mais ils sont pas des chefs équivalents. Alain a une grande expérience maintenant de l'art lyrique. Il a commencé sa carrière comme pianiste, comme répétiteur, il est très près des chanteurs. Il sait les aider à prendre un rôle, à modeler une phrase. Moi, je l'ai beaucoup vu travailler, je comme pianiste aussi au Théâtre des Champs-Élysées autrefois, j'aime beaucoup. Il y a des grands chefs d'opéra actuellement. Si on n'est pas snob, il y en a beaucoup. Il y a ces deux Français dont vous avez parlé, mais il y en a d'autres. Il y a des grands chefs d'opéra actuellement.
Oui, c'est un peu ça qui a été la difficulté de l'Opéra de Paris ces dernières années. C'est peut-être pendant les années Gall, pendant les années Mortier, la difficulté à vraiment établir un contre-pouvoir à l'intérieur de la maison. Parce que mine de rien, le directeur musical, s'il est important, constitue pour le directeur général, dans un monde qui ne serait pas idéal et fait de compromis, une sorte de contre-pouvoir.
Moi, je vois pas les choses comme ça. Je pense qu'un directeur musical et un directeur général doivent s'entendre. Ou alors il faut qu'ils se séparent.
Ce qui vous est arrivé?
Oui, on ne s'entendait pas, on s'est séparés. Voilà. Mais je trouve qu'un directeur musical, ça a une légitimité quand c'est une personne qui se trouve beaucoup à l'intérieur du théâtre. Beaucoup. On ne peut pas être l'âme artistique d'un théâtre d'opéra si l'âme n'est pas à l'intérieur du corps. Et je pense que la présence physique... Ça, je peux peut-être ancienne bonne. Moi, je trouve que la présence physique du directeur et du directeur musical dans l'établissement sont extrêmement importantes.
Est-ce que ça peut différer, ce dont vous parlez, en fonction du fait que la maison d'opéra soit une maison qui travaille sous forme de stagione ou sous forme de répertoire? À savoir que dans la forme stagione, un directeur musical peut être là pour les productions emblématiques, pour diriger des Troyens, pour diriger un Ring ou un cycle Mozart da Ponte. Dans la stagio, dans le théâtre de répertoire, comment est-ce qu'il peut assurer sa présence?
Dans le théâtre de répertoire, il faut qu'il soit, il faut qu'il ait un répertoire énorme d'abord. Un répertoire, il faut qu'il soit, je dirais, beaucoup d'opéras et qu'il ait l'humilité de diriger des reprises, souvent. En réalité, les deux systèmes sont très différents, mais il y a quand même des points de convergence, parce qu'on voit quand même qu'un théâtre comme l'Opéra de Paris, c'est un théâtre de stagione, mais qui tend vers le répertoire. C'était ça l'idée de départ, c'était qu'au fond, les installations techniques permettent d'avancer vers plus d'alternance et un plus grand nombre de titres offerts au public. Du côté des théâtres de répertoire, on essaye aussi de faire en sorte que n'importe quelle représentation de répertoire soit du même niveau qu'une représentation d'un théâtre de stagione. Moi, je pense que le directeur musical, en fait, il a des fonctions relativement analogues dans les deux types d'établissements. Je pense qu'il faut qu'il dirige beaucoup, qu'il soit présent, qu'il aille aux répétitions, qu'il aille voir les spectacles dirigés par des collègues, qu'il assiste aux auditions, qu'il soit présent.
En somme, peut-être pour expliquer à ceux qui ne sont pas familiers du travail de l'Opéra d'État de Vienne, l'orchestre qui est dans la fosse, qu'est-ce que c'est exactement ?
C'est le même orchestre que l'Orchestre Philharmonique de Vienne. C'est depuis 175 ans, pardon. Les musiciens de l'Opéra National, à l'époque, qui n'étaient pas encore Staatsoper, c'était Hofoper, Théâtre de la Cour, ont créé une association au sein de laquelle ils jouent des œuvres symphoniques, plus des opéras, mais seulement à Salzbourg. Et donc... Quand le musicien joue dans la fosse de l'opéra, il est un membre du personnel de l'opéra. Quand il joue le concert du premier de l'an, par exemple, qu'on voit à la télévision, il est membre de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Et en fait, ce sont les mêmes musiciens. Alors, il se trouve qu'en tant qu'Orchestre Philharmonique de Vienne, il y a belle lurette que l'orchestre n'a pas de directeur musical. Ils gardent leur indépendance. Et je pense que d'une certaine façon, c'est ce que disent les musiciens, et je pense qu'ils ont raison, c'est ce qui a permis... à l'orchestre de garder son identité sonore, car elle n'a jamais été façonnée par un grand chef d'orchestre qui est resté là pendant 10 ou 15 ans. Et ça veut dire que les chefs d'orchestre que l'orchestre aime sont les chefs d'orchestre qui arrivent à rentrer dans l'univers de cet orchestre, dans son univers sonore. Il y a des instruments très particuliers, par exemple le cor viennois, c'est un cor spécial quand je joue qu'à Vienne, le hautbois viennois aussi. Et il y a des trucs, il y a des façons de jouer certains éléments de la musique qui n'appartiennent qu'à eux, où on voit tout d'un coup 90 musiciens qui font la même chose. Et quelque chose de bas court, un petit glissando, un petit ritardando, tout ça, ils respirent. C'est un orchestre qui est très libre. En réalité, ce n'est pas un mystère. Moi, je suis allé à Vienne parce que il y a le Philharmonique de Vienne qui joue chaque jour. Et que quand vous voulez jouer le grand répertoire germanique, par exemple, franchement, il n'y a pas mieux. C'est impossible de jouer Wagner mieux qu'eux, c'est impossible de jouer Strauss mieux qu'eux, c'est impossible de jouer les grandes pièces germaniques du XXe siècle mieux qu'eux. Quand vous avez fait ça, vous savez vraiment.
Mais alors, quand on est, mettons, directeur musical de l'Opéra d'État de Vienne, est-ce qu'on est pour autant directeur musical de l'orchestre ? Si la réponse est non, vu qu'elle le sera, comment peut-on façonner ou contribuer à façonner l'orchestre ?
Je pense qu'il faut renoncer à façonner l'orchestre quand on est directeur musical de l'Opéra d'État de Vienne. Je pense qu'il faut accepter l'orchestre tel qu'il est. L'orchestre en tant que tel, c'est un des plus grands artistes du monde. On doit le respecter. Et je pense que de toutes les façons, pour répondre précisément à votre question, le directeur musical de l'Opéra de Vienne n'est pas directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Il ne le sera plus jamais. Ça, je pense qu'il faut bien le comprendre. C'est une communauté de musiciens qui lorsqu'ils font des concerts symphoniques, choisissent leur chef d'orchestre. Et je trouve que c'est très simple parce que d'une certaine façon, quand c'est bien vécu par le directeur de l'opéra, qui n'est pas forcément content que voilà, une partie de son personnel, comme ça, ait des visées très autonomistes, quand c'est bien vécu par le directeur de l'opéra, ce qui est mon cas, ça permet de tirer vraiment tous les aspects positifs de cette situation. Par exemple, c'est ce qui donne à cet orchestre un caractère aussi responsable. Vous voyez des choses que vous ne verrez jamais. Un jour, le délégué de l'orchestre vient me voir et me dit « Voilà, on a un problème, monsieur Intel, violoniste de son état, est toujours en retard. » Voilà. Moi, je venais de France, je trouvais ça un peu curieux. Et il me dit « Il n'y a qu'une seule solution, il faut rétablir l'amende. » Autrefois, il y avait une amende, elle a été retirée. Bon, j'ouvrais de grands yeux. J'ai fait une réunion, j'ai demandé à la directrice des affaires juridiques si elle pouvait, ce qu'elle en pensait. D'abord, elle m'a dit oui, il a raison, il faut rétablir l'amende. fait une réunion avec les deux responsables du Philharmonique de Vienne, en tant que Philharmonique de Vienne, le président et le directeur, qui sont deux violonistes, qui étaient deux violonistes à l'époque. Et la dame du service juridique avait apporté un texte avec deux parties en blanc. C'était le montant. Donc, je dis, alors qu'est-ce qu'on fait pour le montant 100 euros? Ils ont ri, ils m'ont dit, mais c'est beaucoup trop peu. Donc, ils ont mis 300 euros à la première infraction et 500 euros à la récidive. Ça n'a d'ailleurs pas du tout réglé le problème du retardataire qui était retardataire
dans l'âme,
que j'ai fini par mettre à la retraite anticipée. Mais quand même, c'est pour vous dire à quel point ces musiciens se sentent responsables. Vous n'aurez jamais les petites chicayas syndicales qu'on a souvent avec les orchestres, jamais. Au contraire, le délégué arrive avec un problème et des propositions de solutions. Et je trouve que ça aboutit à des discussions très, très civilisées dans lesquelles on n'a jamais l'impression d'être en conflit. On s'attaque ensemble à des problèmes que nous avons en commun.
Alors, une des parties du métier de directeur d'opéra, c'est la très grande diplomatie, puis le rapport ambigu qu'on peut avoir avec les pouvoirs publics. On vous a vu dans la presse sortir du bois parfois, tenir des propos extrêmement durs et fermes. Je me souviens notamment d'une déclaration que vous aviez faite en disant « Jusqu'à présent dans ma carrière, je n'ai jamais eu un bilan déficitaire et il est hors de question que j'ai un bilan déficitaire à Vienne si jamais les pouvoirs publics n'honorent pas leurs promesses ». Est-ce que quand on prend des positions aussi radicales, est-ce que quand finalement on interpelle directement les pouvoirs publics, ceux-ci vous observent avec la même bienveillance?
Non, bien sûr que non, mais je pense que de temps en temps, il faut prendre ses responsabilités. Moi, je crois à l'honnêteté. C'est peut-être un sentiment dépassé, mais je crois à l'honnêteté. C'est-à-dire que quand vous faites un budget, il doit être sincère et honnête. Alors si, à un moment, les conditions de fabrication de ce budget ne sont pas honnêtes et produisent inéluctablement un déficit, dans ce cas-là, il faut le dire. Or, à Vienne, il y a un élément qui est très, très important. Vous savez qu'un théâtre d'opéra, c'est une entreprise qui consacre à peu près 70% de son budget à la masse salariale. Alors, il y a 970 employés à l'Opéra de Vienne. L'augmentation des salaires n'est pas décidée par le directeur de l'opéra, elle est décidée par l'administration publique autrichienne. Autrement dit, un beau jour, il y a une négociation à laquelle vous n'êtes pas partie prenante, qui aboutit à une augmentation de votre budget sans que vous receviez le financement. Donc on vous envoie la facture, mais pas l'argent. Donc je l'ai dit simplement, je lui ai dit, écoutez, voilà, vous pouvez vous faire bien voir en augmentant le salaire de mes employés, c'est très bien, je suis très heureux qu'ils soient mieux payés, mais vous devez financer ces augmentations si c'est vous qui prenez les décisions de les augmenter. Et donc voilà, c'était juste ça, moi j'aime bien être honnête. Et c'est vrai que dans ma longue carrière, j'ai fait, je crois que c'est dans la 26e saison comme directeur, je n'ai jamais fait un centime de déficit. Et donc, j'ai décidé de ne pas commencer. Si à un moment, vous apercevez que les dés sont pipés, ben voilà, il faut poser la question de confiance. On veut ou on ne veut pas. Et voilà, et on a résolu le problème.
C'est une problématique que rencontrent de plus en plus de directeurs de maisons d'opéra, dont les subventions ne sont pas augmentées ou pas indexées, et les salaires, eux, au contraire, subissent l'index, et donc une augmentation. Alors évidemment, ce n'est pas le même problème, vu que ça ne repose pas sur quelque chose de biaisé, mais pour autant, ça pose le même problème comptable.
Oui, bien sûr, je compatis hein, pour tous mes collègues, mais je pense qu'il faut tous qu'on ait conscience de cette situation et il faut se battre. Et il y a des solutions de facilité. C'est-à-dire que l'État attend, les responsables publics attendent toujours qu'on augmente les prix, qu'on augmente les recettes. Bon. Moi, je suis passé de 28 millions de recettes de billetterie en 2010 à 35 millions et demi de recettes en 2017. Donc, bon, 7 millions d'augmentation, ça veut dire qu'au fond, on a augmenté les recettes d'un quart. Mais je l'ai dit plusieurs fois aux ministres successifs, je ne suis pas un gros partisan de l'amélioration de ce record. Parce qu'on va arriver à une chose que je ne voudrais pas trouver, c'est... En augmentant le prix des places, on va se retrouver à mettre en difficulté des spectateurs qui aiment vraiment l'opéra. Alors, naturellement, à Vienne, j'arriverai à trouver quelques touristes supplémentaires qui seront ravis d'aller s'asseoir en première catégorie. C'est très bien. Mais j'ai 240 places à vendre en première catégorie. Tous les soirs, nous jouons 300 fois par an. Je ne voudrais pas, en poussant les prix de manière exagérée, aboutir à un résultat qu'on voit quand même dans beaucoup de théâtres très importants où la première catégorie est désertée. Alors, Ça veut dire, pour moi, je ne voudrais pas attenter à une chose que je trouve très belle à Vienne, qui existe dans d'autres villes, mais à Vienne qui est très forte, c'est qu'il y a un lien entre la population et l'opéra. Et je pense que si on continue à pousser l'augmentation des prix à tout va, naturellement on va se donner bonne conscience, mais les gens qui décident ces augmentations ne sont pas des gens qui payent leurs billets. Et donc, moi, je vous garantis, dans une ville d'1,7 million habitants, arriver à trouver chaque soir 240 personnes qui puissent payer 200 euros pour une place en première catégorie, c'est pas facile. Et je pense que si on continue à jouer ces jeux absurdes des prix des places, on va finir par les évincer. Regardez ce qui s'est passé à Paris. Les concerts symphoniques, ça coûte tellement cher qu'on a des problèmes de remplissage. Tout d'un coup, on construit la Cité de la Musique. Moi, j'en parle à mon aise, j'étais pas pour. Je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup d'équipements. Bon. On a fermé Pleyel, ça résout un des problèmes. Mais la philharmonie étant loin du centre, on s'est dit, on va avoir du mal à trouver du public, baissons les prix des places. Et la philharmonie est pleine. Et moi, je pense qu'à la fin, on colle trop à la musique classique cette image de privilège d'une catégorie sociale. Et en faisant ça, on se trompe parce que justement, on évince les gens qui sont moins privilégiés. Et je trouve que c'est une grande erreur de stratégie. Et quand on voit que tout d'un coup, dans un milieu qui a l'air fermé, qui a l'air définitif, où les clients sont les clients et les non-clients sont les non-clients, quand on rebat les cartes et que tout d'un coup on offre des places peu chères, ben on voit arriver une nouvelle catégorie d'amateurs de musique. Et c'est quand même ça qu'on devrait faire quand on aime la musique et qu'on voudrait la faire partager.
Oui, parce que c'est tout le débat de l'Opéra de Vienne, finalement. C'est qu'au même titre que la Zachertorte et la Demmeltorte, elle fait partie de ce décorum viennois et de l'activité touristique. Mais pour qu'elle garde ses charmes, elle doit garder ses qualités artisanales et son ancrage dans la culture locale.
Oui, parce que je ne connais pas une ville dans laquelle il y ait un tel amour de l'opéra. Naturellement, il y a du touriste. Il y a 30% de touristes à l'Opéra de Vienne. J'étais bien content ce week-end. C'était le week-end du 1er mai. Les Viennois étaient dehors. Il y avait des touristes. Ils sont venus voir Aïda, André Chénier et le Barbier de Séville. J'ai pas joué d'œuvres contemporaines ce week-end, je le confesse. Mais je pense que c'était pas le jour où le faire. Bon, grâce à quoi le théâtre a été plein. Mais ce qui est beau à Vienne, c'est que l'opéra, c'est pour tout le monde. Nous avons chaque soir 580 places. Qui sont des places debout, dont la moitié sont au fond du parterre, donc avec une très très bonne acoustique et une excellente visibilité, et qui sont vendues pour le prix de 3 et 4 euros. Donc moi je trouve que c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a une espèce d'osmose entre la population et son opéra. Et moi j'aurais du mal à penser qu'un jour ce ne sera plus le cas, parce que simplement on a voulu faire des bêtises avec les prix. Et je trouve que c'est trop précieux. Les anecdotes qu'on raconte sur les chauffeurs de taxi sont vraies, les serveurs de restaurant qui vous disent « Ah ben j'y étais samedi, c'était mon jour, malheureusement dans mon métier j'ai un seul jour de repos par semaine, je peux y aller qu'une seule fois par semaine », tout ça c'est vrai. Et les enfants qui viennent voir à plusieurs reprises les représentations pour enfants toute l'année, ou alors qui bénéficient de places à 15 euros pour n'importe quelle place quand ils accompagnent leurs parents pour n'importe quelle représentation, ça je trouve que c'est formidable. Parce que c'est ça la vraie vie de l'opéra, c'est pas dans les salons à moquette épaisse où on décide du prix des places, c'est vraiment sur place. Et moi, je pense qu'il faut garder ça précieusement dans une ville comme Vienne. Parfois, en France, on dit que la culture est un supplément d'âme. À Vienne, l'opéra, c'est l'âme même du peuple.
Quelques mois avant le début de l'affaire Weinstein, il y avait le bal de l'Opéra d'État de Vienne. Il était dirigé par Speranza Scapucci, femme chef d'orchestre. On ne peut donc pas vous accuser d'avoir rapidement adapté votre programmation à l'environnement. Déclaration de Thierry Frémaux, directeur du Festival de Cannes, lors de la dernière conférence du festival. Nous devons être attentifs à la place des femmes réalisatrices, mais en aucun cas on ne pourra commencer à faire de discrimination positive vis-à-vis des femmes, à savoir d'engager une femme uniquement parce qu'elle est une femme. C'est un débat d'une très grande complexité. Comment est-ce que, quand on est directeur de maison d'opéra, on réagit à ce genre de problématique, sachant que pour l'instant, effectivement, il y a très peu de femmes metteurs en scène d'opéra qui travaillent sur les grandes scènes, et c'est la même chose pour les chefs d'orchestre.
Oui, mais il y a du talent. Il y a du talent, et quand en plus du talent, il y aura de l'expérience, je peux vous dire que il y aura plus de femmes aux manettes. Moi, j'ai eu cette année deux premières sur six qui étaient dirigées par des femmes et deux premières qui sur six qui étaient mises en scène par des femmes. Donc, pas de souci de ce côté-là. Honnêtement, j'ai jamais regardé la carte d'identité, la provenance ou le sexe, vérifier le sexe des protagonistes. Moi, j'engage des artistes parce qu'ils me paraissent adaptés pour réaliser leur tâche. De toute façon, on ne peut pas faire de démagogie, ça n'aurait pas de sens. Mais j'étais très heureux de voir que ça ne posait aucun problème, qu'elles étaient là, elles ont parfaitement fait leur travail, elles ont eu beaucoup de succès. Mmh. Par exemple, Susanna Melki, qui n'était jamais venue à l'Opéra de Vienne, qui a fait une première, qui était la mort de Danton, de Gottfried von Einem, a eu un succès mais énorme, vraiment. J'étais ravi. Et Simone Young, qui vient depuis des années à l'Opéra de Vienne sans que ça émeuve qui que ce soit, elle va dans la fosse, elle dirige le Philharmonique de Vienne et tout le monde applaudit. Mais c'est pas hier. J'ai aussi, je crois, produit le tout premier concert d'Emmanuel Haïm au Théâtre des Champs-Élysées, aussi quelques années. Donc, moi, j'estime que c'est notre devoir lorsqu'une personne est capable de d'assumer une fonction artistique que de l'engager.
C'est ça toute la problématique, et ça vaut aussi pour le protectionnisme. C'est qu'on dit qu'il ne faut pas faire de démagogie, il ne faut pas absolument vouloir faire des coups pour répondre immédiatement à la presse et à toutes ces préoccupations qui deviennent virales. Mais néanmoins, on a vu une étude au Royaume-Uni où en l'espace de 10 ans, le nombre de femmes à réaliser des films est passé de 11 à 13%, ce qui est vraiment une évolution absolument absurde. Ce qui démontre quand même que si à un moment on n'a pas une démarche proactive, les choses ne vont pas se faire toutes seul.
Dans la musique, c'est différent, je pense, parce que il faut regarder ce qui se passe en amont. Si vous allez dans les écoles de musique, vous verrez que la grande majorité des bons élèves sont de bonnes élèves. On pose toujours la question à l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous savez que les auditions se font derrière rideau, donc on ne sait pas qui joue, mais aujourd'hui, plus de 50% des recrutements sont féminins. Ce n'est pas un mystère. Si vous allez au conservatoire, vous allez voir que 80% d'une classe d'âge de violonistes ou de flûtistes sont des femmes. Donc ça produit un résultat assez naturel et évident. Et je pense que pour ce qui est des chefs d'orchestre et des metteurs en scène, c'est la même chose. Il y a beaucoup de talents et elles frappent à la porte, elles sont là et c'est très bien. Je trouve simplement que c'est un phénomène naturel. Je crois que c'est le phénomène de ma génération en réalité. On a commencé avec c'est au cours de ma génération en France que les écoles sont devenues mixtes. C'est un phénomène naturel et normal. Il a été un peu lent, mais je trouve qu'au fond maintenant les choses évoluent correctement.
Évidemment, les auditions de chefs d'orchestre ne peuvent pas se faire derrière un rideau parce qu'on aurait du mal à évaluer leur gestique. Mais oui.
Non, mais si vous avez, si vous avez plus de femmes dans les écoles de musique, vous avez plus de pianistes qu'aux répétitrices. Moi, j'en ai la moitié à Vienne. Hein, sont des dames. La plupart des assistants metteurs en scène sont des dames. À l'Opéra de Vienne, et donc je pense que ça produira son effet forcément tôt ou tard, parce que c'est l'école par laquelle on devient soit chef d'orchestre, soit metteur en scène. Et donc moi je ne me fais pas de soucis, je pense que ça va s'équilibrer tout à fait naturellement au fil des années.
Quand on parle de Vienne, l'un des plus grands clichés sur sa vie culturelle et politique, c'est que ce serait une ville schizophrène. On peut prendre l'exemple de la Belle Époque, où en même temps, un maire de Vienne qui est sévèrement antisémite, et puis François Joseph qui, lui, édicte des lois visant à limiter les méfaits de l'antisémitisme. Il y a à la fois un conservatisme qui est établi, et puis la seconde école de Vienne qui naît et qui va modifier durablement l'histoire de la musique. Est-ce que cette schizophrénie est réellement inhérente à la ville, contribuant à la rendre passionnante, ou ça aussi c'est un cliché ?
Non, je pense que les choses ont évolué beaucoup. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que, alors parlons de l'Autriche plutôt que de Vienne, je pense qu'il y a une grosse césure entre la campagne et la ville. Et je pense qu'aussi, il y a une rupture générationnelle entre les gens qui ont vécu, disons, longtemps, encore à l'époque du rideau de fer, et les gens qui ont grandi après. Il faut comprendre quand même que le rideau de fer passait à 30 km de cette ville. Donc cette ville était le bout du bout de l'Occident. Et elle était un peu confinée, un peu fermée, parce qu'il n'y avait pas d'issue. C'est un peu comme une grosse tête qui aurait perdu son corps. Il y avait tous les stigmates de la grandeur passée, parce que c'est une ville magnifique, dont les monuments sont magnifiques, qui est très bien entretenue, qui est très belle. Et je pense que pendant longtemps, les Viennois ont vécu dans cette espèce de situation à la Thomas Bernhardt. Ils emploient un mot que je trouve très parlant, ils disent « klein carré », c'est un petit carré, enfermé dans des petits carreaux. Donc avec mentalité petite, grincheuse, négative, parlant beaucoup mal, avec une espèce de méchanceté qui était presque comme un insigne, comme une décoration. Aujourd'hui, je trouve les jeunes générations sont complètement différentes. C'est une ville qui respire, c'est une ville dans laquelle il y a beaucoup de jeunesse, il y a beaucoup de courants internationaux. C'est un pays qui a 9 pays frontaliers. Et d'ailleurs, la plupart de ces artistes auxquels vous faites référence du début du XXe siècle, en fait, ils étaient nés dans la deuxième partie du XXe siècle, ils n'auraient pas du tout été autrichiens, ils auraient été tchèques, slovaques, hongrois, je ne sais pas. Donc il faut bien comprendre ça. Aujourd'hui, toutes ces ramifications qu'il y a entre le pays et les pays limitrophes, entre la ville et les villes limitrophes, Bratislava est à 40 km, on peut aller très facilement à Prague, on va très facilement en Pologne, on va très facilement en Croatie de l'autre côté. Toutes ces ramifications sont réouvertes. Et la ville qui était vraiment blottie au bord du rideau de fer, aujourd'hui, elle est à la porte de tous ces pays qui lui ont apporté énormément d'oxygène. C'est devenu une ville très internationale. Je me souviens quand j'allais voir des spectacles il y a 30 ans, 35 ans, on ne trouvait pas un bistrot pour aller dîner après. Aujourd'hui, il y en a des dizaines. Il y a une vraie vie intense. Il y a des musées magnifiques, il y a de l'art contemporain, On n'a pas de problème pour offrir des œuvres contemporaines à un public dit traditionnaliste. C'est en fait plus du tout vrai. On a joué par exemple La Tempête de Thomas Hadès, 8 représentations remplies à 100%. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de villes dans le monde qui sont moins conservatrices, mais dans lesquelles on remplirait La Tempête de Thomas Hadès à 100%, 8 fois de suite, dans un théâtre qui n'est pas petit, puisqu'il y a 2300 places.
Ce n'est pas du Helmut Lachenmann non plus. Hein.
Non, mais on a joué aussi Peter Edveux, c'était plein aussi. On a joué cette année La Médée d'Harry Bertreimann, c'était plein aussi. Enfin bon, en fait, il y a beaucoup de vieilles lunes quand on parle de Vienne.
On peut peut-être terminer là-dessus, Dominique Meyer. Je crois qu'il y a très peu d'observateurs qui s'attendaient à ce que vous quittiez vos fonctions au terme du mandat que vous êtes en train d'exercer maintenant. Je ne vais pas vous demander si vous avez été surpris ni quelles sont les raisons de ce départ. Ce qui m'intéresse évidemment, c'est l'avenir. Est-ce que vous avez des maisons en vue, des envies qui changent? On ne va évidemment pas parler d'un élevage de chèvres dans le Vercors, ce à quoi tout homme honnête peut aspirer légitimement.
Mais je n'ai pas les compétences.
Mais il y a quand même de très belles maisons qui sont en train de se libérer, des beaux défis. J'imagine que vous n'avez pas nous citer de nom, mais est-ce que vous avez des envies?
On verra bien. Moi, d'abord, j'étais très heureux. Je suis toujours très heureux à Vienne. Il n'y a pas un seul jour où je sois allé à l'opéra sans être heureux d'y aller. C'est-à-dire, pareil, côté des Champs-Élysées, moi, je suis un homme heureux. J'ai eu la chance de faire le métier que j'aime, dans des endroits que j'aime, travailler à très, très haut niveau avec de très grands artistes, et de pouvoir le gérer à ma main. C'est-à-dire, un grand théâtre international, mais géré comme une maison familiale, en fait, et avec un contact personnel avec chacun, une très, très bonne ambiance, et avec une chance magnifique de pouvoir jouer ce grand répertoire germanique avec le Philharmonique de Vienne et à un moment où tous les chanteurs nécessaires sont disponibles. Ça ne se produit pas toujours. Oui. Là, vous pouvez être le meilleur cuisinier du monde. Si vous n'avez pas les chanteurs wagnériens pour faire Wagner au niveau, vous ne pouvez pas le faire bien. Moi, j'ai eu cette chance. Et là, il faut bien le dire, ça n'a rien à voir avec la capacité, le talent. C'est juste le hasard d'être là au bon moment. Oui. Voilà. Et maintenant, oui, j'ai beaucoup d'envie, j'ai plein d'idées, j'ai quelques petites propositions et peut-être j'attends que peut-être le destin soit sympathique avec moi encore une fois.
Il y a l'érosion des moyens de l'État pour la culture en général et les maisons d'opéra le ressentent. Est-ce que vous pourriez imaginer, pour la dernière partie de votre carrière, d'embrasser une certaine logique d'arte povera et d'aller faire de grandes choses là où peut-être il y a moins de moyens que ceux que vous connaissez actuellement?
Je ne sais pas, moi je ne sais pas répondre à des questions théoriques, moi je ne sais répondre qu'à des questions pratiques.
Pourtant, quand on se projette, on réfléchit à la théorie, j'imagine. Est-ce que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas?
Disons que je ne peux pas.
Merci Dominique Meyer.
Voilà, merci à vous.